franceinter.fr.
Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
De quoi jubiler dans la presse ce matin, dites-vous?
Oui, en fait, Patrick, craignant de devoir ce matin vous reparler de FN, retrait, fusion, négociation, mais aussi Daesh ou terrorisme, j'ai d'abord cherché une petite respiration, histoire effectivement de jubiler et éventuellement de vous amener à jubiler à votre tour. Jubilation d'abord à replonger dans l'esprit des années 70 avec le magazine Schnock qui nous fait vivre la naissance d'Harakiri et de Charlie Hebdo première version sous les plumes vivaces ou posthumes de Delphine de Ton, Choron ou Cavana. Harakiri, journal bête et méchant, dynamiteur de la bien-pensance. Alors on y retrouve ses unes célèbres, balle tragique à Colombey bien sûr, mais aussi le baveux baiser sur la bouche entre un CRS et un étudiant en 68. On frémit au compte-rendu de faits divers sous la plume de Choron, d'une trachitude absolue. On se régale des portraits des dessinateurs qui ont fait ce journal ovni à l'époque. Les Wolinski, Willem, Reiser et Vuillemin, ces enfants de la guerre qui avaient compris, dit Schnock, que le seul grand comique métaphysique est le comique face à la mort. Et tout à mon envie de respirer, je me suis même intéressée ce matin à Angelina Jolie, ouais, celle qu'on trouve en général dans les magazines People pour son mari, ses enfants, sa double mastectomie. L'actrice qui vient de réaliser un film fait la une de Elle cette semaine, alors pour les mêmes raisons. Angelina Jolie, ma vie, mon couple, promet le magazine. Mais en fait, l'article vaut d'être lu pour une toute autre raison. Il est signé par une écrivain, Marie Dariussecq, et c'est sa plume qui nous rend le personnage intéressant. Marie Dariussecq qui nous raconte d'abord le cadre tellement factice de la rencontre avec la star hollywoodienne, où l'être et le néant de Sartre est posé là, négligemment, pour faire patienter les journalistes. Alors arrive Angelina. Son visage est tellement connu, écrit Marie Dariussecq, que la rencontrée fait un effet rose-pourpre du Caire, le film de Woody Allen. J'ai envie de la toucher avec une sorte d'érotisme scientifique. Son corps, comme celui des apparitions, aurait peut-être la texture des spectres. Il y a chez cette femme, décrit-elle, une infinie tristesse, un savoir sur la mort et une petite fille qui supplie « Prenez-moi au sérieux, I'm real ». Angelina Jolie, qu'elle compare à l'étoile Kik qu'on vient de découvrir à 1500 années-lumière de la Terre et dont on imagine qu'elle pourrait être entourée d'un rempart de panneaux solaires bâti par une vie extraterrestre, on appelle ça la sphère de Dyson. Avec Angelina Jolie, j'avais cette impression, dit-elle, une sphère de Dyson observée par tous les télescopes et fortifiée d'un métal miroitant. Je me demande quelle vie on peut bâtir dans un tel château fort, écrit l'écrivain.
Vous trouvez même de quoi jubiler ce matin à propos de la COP21.
Alors pas vraiment sur les négociations en cours, en vérité. Libération se demande quel verbe employer pour qualifier leur avancement. Traîner, s'enliser, patauger. Mais non, sur la façon en fait dont la culture populaire s'empare du danger du réchauffement climatique, au cœur donc de cette conférence climat. C'est Courrier International qui reproduit un article du site d'information américain Motherboard qui nous apprend que le dernier opus de Call of Duty, sorti début novembre, est le premier jeu vidéo à s'emparer du sujet. Nous sommes en 2065 et où qu'ils aillent, les joueurs de Call of Duty se trouvent confrontés à des climats extrêmes. Tempête en Égypte, inondation à Singapour, ils pataugent dans la flotte, ils se battent contre la poussière. En fait, raconte le journaliste, vous vivez dans l'environnement qui sera probablement le nôtre si la planète continue de se réchauffer. Audace rare dans le divertissement de masse. Alors à l'heure où certains se demandent comment générer un discours efficace et percutant sur le réchauffement, eh bien voilà pourquoi ne pas commencer par faire jouer tout le monde à Call of Duty, s'interroge le journaliste. Les ados, en tout cas, ont désormais une bonne excuse pour jouer.
On revient à l'actualité du jour, Hélène.
Avec la première réaction de Bernard Tapie, entretien exclusif au Monde ce matin, vous l'avez déjà entendu, je suis ruiné de chez ruiné, affirme l'ex-homme d'affaires, après que la Cour d'appel de Paris a décidé de lui demander le remboursement de 404 623 082 euros et 54 centimes. C'est ahurissant, dit-il. On me demande de rembourser des sommes astronomiques que je n'ai même pas touchées. Tapie qui se dit abattu, KO, qui trouve humiliant et machiavélique l'unique euro de préjudice moral qui lui a été accordé. Abattu, mais plus que jamais s'affichant comme victime d'un complot. Quelquefois, dit-il, la société a besoin d'exécuter des innocents. Pourquoi tant de haine, se demande-t-il. Bernard Tapie accuse un petit peu confusément justice, médias et pouvoir politique de se liguer pour vouloir sa perte. Une porte de sortie? Oui, Bernard Tapie dit n'attendre aucun geste du pouvoir socialiste, enfin quand même. Le gouvernement, dit-il, et ça ne dépend que de lui, n'est pas obligé d'exécuter un jugement infamant.
Oui, il en appelle à Macron, hein, il cite Emmanuel Macron. Autre info dans la presse ce matin.
Photo glaçante des bébés Daesh dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, enfants soldats dans un camp djihadiste. Le journal nous raconte comment l'une des stratégies de l'organisation État islamique consiste à peupler le califat autoproclamé de futurs combattants, en soumettant notamment les femmes, les européennes qui arrivent en Syrie à cette simple fonction de reproduction. Situation d'état d'urgence, expression appliquée cette fois aux frontières de Schengen. Les ministres de l'Intérieur européens se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles et c'est bien le retour des contrôles aux frontières internes qui sera sur la table, nous expliquent les Échos. Une façon d'entériner ce que certains états ont déjà mis en place face à l'afflux de réfugiés, mais aussi de mettre la pression sur la Grèce, accusée de ne pas jouer le jeu de contrôle à ses propres frontières. Karim Benzema lâché par la Fédération de foot, c'est l'équipe qui nous l'annonce. Jeudi prochain, selon toute vraisemblance, écrit le journal, Noël Le Graët s'installera derrière le pupitre pour une conférence de presse et mettra, entre parenthèses, la carrière internationale de Benzema. Et puis foot toujours, Canal+ pourrait racheter beIN Sport. C'est en tout cas autour de cette hypothèse que spéculent les analystes financiers, nous dit le Figaro Echo. À chaque fois que la chaîne cryptée a été attaquée par un concurrent, rappelle-t-il, elle s'en est sortie en le rachetant. Une semaine après la perte des droits du foot anglais au profit d'Altice, Vincent Bolloré aurait donc tout intérêt à nouer des alliances, d'où l'idée de racheter beIN. Pure hypothèse néanmoins pour l'instant.
On termine, Hélène, par l'actualité de ce dimanche.
Le premier tour des élections régionales avec un appel au civisme de plusieurs de vos quotidiens. Votez, c'est urgent, nous enjoint le Parisien. Les bonnes raisons d'aller voter, nous rappelle La Croix, alors pas de choix partisan pour eux quand l'Humanité, journal d'opinion, réclame de choisir la République sociale contre les peurs. On terminera avec Cécile Cornudet dans les Échos qui note le dernier virage de cette drôle de campagne. Le durcissement du Front National, c'est dédiabolisé diabolique qui dans la dernière ligne droite renoue avec l'outrance. Rappel des propos sur la charia de Marine Le Pen qui remplacerait, a-t-elle dit en meeting, la Constitution. Elle fait le pari avec sa nièce, nous explique l'éditorialiste, que le pays est davantage en sécession que ne le laisse paraître l'unanimisme post-attentat. Dans cette période troublée, les émotions l'emportent sur les raisonnements, estime le FN. Sera-t-il démenti dimanche, s'interroge la journaliste. Eh bien, c'est avec la réponse à cette question qu'on se retrouve lundi, Patrick.
À lundi, merci Hélène Jean pour la revue de presse.